Vous écoutez France Culture.
Bonjour. Aujourd'hui, une émission intitulée « Les cités italiennes, laboratoire d'une république », dont la première diffusion a eu lieu le 9 novembre 2013.
Et je n'oublie pas leur goût violent pour la politique, ainsi que la passion de la liberté, cette libertas dont le nom magique figure sur le blason de Sienne comme au fronton de nos édifices nationaux.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Il existe à Sienne, en Toscane, une série de fresques admirables placées sur les murs du Palazzo Pubblico qu'on est accoutumé d'appeler l'allégorie des effets du bon et du mauvais gouvernement. Ces fresques sont signées d'Ambrogio Lorenzetti et ont été achevées en l'an de grâce 1339. Il s'agit d'une œuvre délibérément politique, destinée à célébrer un régime républicain propre à résister à toutes les séductions, toutes les brutalités du régime de la seigneurie, du pouvoir écrasant d'un seul, système qui prospérait en ces temps-là dans la plupart des villes italiennes. À cette fresque, Patrick Boucheron, qui enseigne à la Sorbonne, vient de consacrer un livre précieux sous le titre « Conjurer la peur, Sienne 1338 », avec en sous-titre « Essai sur la force politique des images ». Son souci constant est de considérer la portée actuelle des réflexions de cette époque déjà sur un possible système républicain. Ce qui inscrit cet ouvrage, on le voit bien, dans le droit fil de cette émission. Et je ne peux mieux faire que de citer d'entrée de jeu son propos. Je souhaite parler de cette image pour comprendre sa puissance d'actualisation. Je cherche à saisir cette stupéfiante force de persuasion qui déborde le contexte brûlant de sa réalisation pour filer droit vers aujourd'hui. Les murs du Palazzo Pubblico de Sienne s'embrument d'une menace qui pèse sur le régime communal. Les citoyens siennois sont fiers de leur république, mais celle-ci est en danger. Rôde le spectre de la seigneurie que le peintre figure comme un monstre cornu sorti des entrailles de l'enfer, ou plutôt revenu d'un passé que l'on croyait révolu. Et Patrick Boucheron d'ajouter « Qui ne voit aujourd'hui qu'une sourde subversion de l'esprit public ronge nos certitudes. Lorsque manquent les mots de la riposte, le danger devient imminent. » Lorenzetti peint aussi cela, la paralysie devant l'ennemi, innommable, le péril inqualifiable, l'adversaire dont on connaît le visage sans pouvoir en dire le nom. Et pour commencer, un regard du peintre Gérard Fromanger sur la fresque de Lorenzetti. C'est une archive de France Culture le 9 juin 2001.
Il faudrait être sur place, faut en tout cas inviter le public à voir ce premier fantastique tableau qui essaye en cinérama, en quelque sorte, comme un écran total, de représenter pour la première fois le monde d'une façon religieuse et laïque dans sa totalité. Et j'ajouterais une chose qui moi, m'a frappé dès la première fois que je l'ai vu, c'est l'espace pictural de l'ensemble de la fresque qui correspond, me paraît une chose vraiment intéressante, qui correspond à quelque chose qui, à l'époque, fonctionnait encore, justement grâce à ce passage du religieux au laïque, et non pas ou au tout religieux comme avant, ou au tout laïque comme après, à un espace presque oriental. C'est-à-dire où, c'est intéressant, il n'y a pas d'horizon, il n'y a pratiquement pas d'horizon. On est tout de suite, dès le haut, dans les collines ou dans la ville. Il n'y a pratiquement pas de ciel. Il n'y a pas de séparation entre le haut et le bas. n'y a pas égalité entre ou suprématie d'un ciel sur une terre. Il n'y a pas de Dieu qui domine des hommes. Il n'y a pas, j'y reviens, c'est important ce mot de séparation, quoi, entre le haut et le bas, entre les maîtres et les esclaves, entre Dieu et les hommes. Comme s'il y avait dans cet espace même une volonté d'associer l'ensemble de l'humain, l'ensemble de l'espace concevable, discible, comme un tout, comme un dialogue, comme une recherche de bonheur collectif.
Patrick Boucheron, bonjour.
Bonjour.
Nous venons donc d'entendre un extrait d'un entretien de Pascal Lismonde avec Gérard Fromanger, le peintre, sur France Culture le 9 juin 2001. Il y a peut-être un peu de difficultés spécifiques à la radio à commenter des fresques, mais enfin, j'imagine que nos auditeurs peuvent éventuellement ouvrir leur ordinateur, qu'ils nous écoutent en direct ou sur podcast, et trouver, grâce à n'importe quel moteur de recherche, une représentation de ces fresques que vous aimez tant, car vous les aimez beaucoup.
Oui, je les aime beaucoup et je suis très heureux d'avoir entendu Gérard Fromanger en parler. Je vous remercie beaucoup, je ne connaissais pas cette intervention. C'est très éclairant. Il faudrait être sur place, vient-il de dire. Il faudrait être sur place, oui, parce que c'est un lieu de peinture. Et l'enfermer dans un livre, c'est déjà, d'une certaine manière, le trahir.
Parce que vous plaidez coupable.
Mais évidemment, parce que le livre, d'une certaine manière, l'enferme, le captive, mais d'une certaine manière, comment faire autrement? Parce que, dès lors qu'on est sur place, pour les raisons que Gérard Fromanger dit, eh bien, on est débordé par l'image, parce qu'elle excède de beaucoup notre champ de vision. Elle s'étend sur deux longues parois de 14 mètres chacun, face à face, et puis un petit mur nord entre les deux de 7 mètres. Sur ce petit mur, des allégories, les allégories du bon gouvernement. Mais je dirais que ce n'est pas ça qui est important. Et ça, Gérard Fromanger l'a bien vu. Il dit, d'une certaine manière, c'est un cinéma, c'est un panorama. Il s'étend, il s'étale sans horizon et avec une sorte d'immanence.
Cinérama.
Oui, il y a un long travelling comme ça. Un long travelling, alors d'un côté, sur les effets du bon gouvernement et de l'autre côté, sur les effets du mauvais gouvernement. Et ce qui se dit là, et c'est d'ailleurs la fresque, on l'appelait « La paix et la guerre ». Une cité en guerre, une cité en proie à la haine d'un côté, et une cité affairée et pacifiée de l'autre.
D'ailleurs, dans sa signature, le peintre Lorenzetti marque bien qu'il a peint les deux côtés.
D'un côté et de l'autre, outrinque. Il a peint ceci et cela, la paix et la guerre. Et effectivement, Fromanger dit, c'est bizarre, alors ça aussi j'aime beaucoup dans ce que nous avons entendu, un espace presque oriental. C'est une manière de dépayser un peu notre regard. C'est une manière assez propre d'ailleurs aux peintres du XXe siècle. Balthus disait des Siennois qu'ils étaient les Chinois de l'Occident. Et de fait, il y a quelque chose de spécifiquement occidental dans cette peinture dans laquelle on reconnaît parfois l'invention du paysage. Mais certains se souviennent, et surtout les peintres d'ailleurs, plus souvent les peintres que les historiens, que ce paysage, il est également au même moment, souvent même avant, inventé par les Orientaux, par les Chinois, par les Japonais. Et dans le mouvement de ces collines siennoises, il y a quelque chose qui est très, oui, qui peut dépayser notre regard. Et il est intéressant de se rappeler que, par exemple, cette fresque, elle est peinte au moment de ce qu'on appelle la paix mongole, c'est-à-dire de ce moment où, justement, le monde eurasiatique est connecté. Cette fresque, effectivement, elle vaut d'abord par le somptueux paysage de collines qui se donne à voir et qui se donne à voir d'emblée comme un effet politique. Car ce que l'on doit dire d'emblée, c'est que le message politique de cette fresque, il ne réside pas, en tout cas, c'est ma thèse, dans le petit mur des allégories qui fascine et qui obsède les historiens des idées politiques, mais dans les effets du gouvernement. C'est-à-dire cette idée qu'un bon gouvernement n'est pas celui qui est inspiré par des principes vertueux ou exercé par de sages hommes.
C'est une pratique.
C'est une pratique. Le bon gouvernement, c'est celui qui, ici, maintenant, sur chacun d'entre nous, produit des effets bénéfiques. Et c'est cela le plus précieux, je pense, de cette fresque. C'est cela qu'elle a à nous dire, puisque nous parlons de sa puissance d'actualisation.
Aujourd'hui encore. Aujourd'hui. Parce qu'on a toujours tendance à dire que la démocratie, peut-être la République, trouve ses racines dans la Rome antique et plus encore dans la Grèce antique. Et là, vous nous dites qu'il y a un deuxième courant qui peut être un courant d'inspiration pour ce que nous essayons tant bien que mal d'affirmer comme la démocratie.
Plus discret, plus difficile. Évidemment, lorsque nos républicains veulent s'enrouler dans les toges gréco-romaines, alors ils donnent à voir une généalogie glorieuse.
En 1789, c'est particulièrement frappant.
Évidemment, David, il ne pense qu'à ça.
Au point qu'un député avait été obligé de s'écrier après des tirades très nombreuses évoquant l'Antiquité. Mais enfin, monsieur, l'histoire, ça n'est pas notre code.
C'est ça. Et en même temps, il y a cette autre histoire.
Qui est un autre code.
Un autre code qui nous ramène, évidemment, dans cet entre-deux, dans cet entre-temps qu'est le Moyen-Âge, et où des formes, évidemment, décevantes. Mais l'horizon de la démocratie, n'est-ce pas fondamentalement la déception ?
Si vous le dites.
Oui, enfin, je ne suis pas le seul à le dire. C'est Myriam Revaud-Allonne, par exemple, qui l'a très bien théorisé.
La philosophe.
Voilà. Dès le XIIe siècle, des villes en Italie, confrontées à un vide de pouvoir, ont pris leur destin en main, des villes, c'est-à-dire leurs élites, bien entendu, se sont, d'une certaine manière, proclamées comme des républiques. Et le mot, évidemment, romain, était à ce moment-là disponible.
Donc il faut savoir comment on en est arrivé là, comment ils ont pu inventer, dans une Europe marquée par la féodalité, ils ont pu inventer ce système nouveau qui est propre à nous inspirer toujours.
Et un système que eux ne considéraient pas vraiment comme nouveau, puisque d'une certaine manière, la philosophie gréco-romaine leur était évidemment une inspiration constante. Mais évidemment, cette histoire, nous la saisissons, puisque vous me proposez de la voir à partir de cette fresque du bon gouvernement, en 1338, à partir du moment où elle se sent en danger.
Alors rappelez-nous comment, dans quelles circonstances, le gouvernement de Sienne, le gouvernement des Neufs, a commandé cette fresque et a souhaité lui donner sa couleur et sa portée politique.
En 1338, effectivement, comme vous le disiez au début de l'émission, c'est l'ensemble de l'Italie communale, c'est-à-dire du centre et du nord, qui se sent subverti, lentement subverti par une mutation politique qui est la seigneurie. La seigneurie, c'est le passage donc à un gouvernement autoritaire dont le ressort de la domination s'étend au-delà des murs de la cité.
Le contado.
Le contado. Et d'ailleurs, c'est très exactement ce que Lorenzetti donne à voir aussi, puisque ces effets du bon et du mauvais gouvernement, ils se représentent au-delà de la muraille, sur la cité et le contado.
Vous êtes un peu injuste à l'égard de vous-même, parce qu'à certains égards, on se dit en voyant votre livre qu'on peut aussi le considérer de plus près grâce aux nombreux détails que vous offrez. Vous braquez l'attention sur certains aspects de la fresque qui vous paraissent particulièrement représentatifs.
Alors il faudrait être sur place, disait Gérard Fromanger, mais enfin sur place, on n'y voit rien, pour reprendre une expression célèbre de Daniel Arras, parce que les figures sont quand même assez hautes. Et donc évidemment, les voir de près avec les moyens techniques d'aujourd'hui, c'est une façon aussi de révéler certains détails. Donc la seigneurie, elle menace, elle rôde et Sienne en est d'autant plus troublée qu'elle se considère comme un des modèles des valeurs civiques qui fondent la commune. Et ce qui est extraordinaire à Sienne, c'est qu'il y a depuis le début du XIVe siècle une politique ardente, tenace, ambitieuse qui mobilise tous les moyens culturels à leur disposition. Je dirais une guerre des images pour convaincre que la commune, malgré tout, c'est le bon régime. Donc on peut dire propagande. On peut dire propagande, ce n'est pas du tout un anachronisme, puisque c'est une manière, si on le ramène à son étymologie latine, propaganda fide, de propager la foi en quoi ? En la politique, c'est-à-dire dans le fait qu'il n'y a qu'une manière d'ordonner la res publica, la chose publique, c'est la commune, c'est le partage du pouvoir.
On peut noter avec intérêt que c'est aussi la conviction des pouvoirs ecclésiastiques, après les grands débats de Byzance, plusieurs siècles auparavant, autour de l'iconoclasme. Était-il légitime ou non de donner à voir le monde des saints, éventuellement le Christ, et éventuellement même Dieu, ou bien devait-on se figer dans une admiration telle qu'elle devait être abstraite ? Le choix a été fait contre les iconoclastes, par les iconodoules, d'utiliser les images au service de la propagation de la foi dont vous venez de parler. Et là, c'est au service de la propagation d'une certaine idée de la vie collective.
Et c'est bien là où il y a passage, comme nous l'a dit Gérard Fromanger. Passage d'ailleurs d'une salle à l'autre, de la salle de la Map Monde où est la maesta de Simone Martini, à la petite salle des Neufs où est Ambrogio Lorenzetti et sa fresque du bon gouvernement. C'est laïcisation en fait de cette idée dont vous venez de parler, qui consiste à dire qu'on donne à voir les justifications d'un message et que cette manière de donner à voir et à comprendre, c'est une forme de la fabrication du consensus.
Cet effort de mettre en place un gouvernement que nous osons, sans anachronisme, appeler républicain et peut-être même démocratique, ce qui menace ce système, c'est probablement d'abord les luttes de factions qui favorisent la seigneurie.
Absolument. Et c'est cela, évidemment, qui va déclencher la crise de la civilisation communale dès la fin du XIIIe siècle. On va dire une montée de la conflictualité.
C'est ce que montre très bien, d'ailleurs, Shakespeare.
C'est ce que montre Shakespeare, c'était son obsession.
Par conséquent, il est intéressant de donner un extrait de Roméo et Juliette, qui se passe à Vérone, évidemment, et non pas à Sienne. C'est une adaptation libre de Cocteau que j'ai choisi, réalisée par Léon Ruth en septembre 1949. Vous allez entendre cet affrontement des factions, les Montaigu et les Capulet, et l'intervention de la seigneurie.
La vue d'un chien de la maison Montaigu suffit pour me mettre en rogne. J'aurai les Montaigu, hommes et femmes.
La véritable dispute est entre nos mères.
Je m'en fous. Après m'être battu contre les hommes, je serai cruel avec les femmes. Je ferai main basse sur elles.
Sur leur vie?
Sur leur vertu. Tant qu'il me restera du souffle, je leur ferai sentir ce que je vaux. Et on sait que je suis fait de chair et d'os.
C'est une chance que tu ne sois pas poisson. Tu aurais fait un bien pauvre Macron.
Regen. Voici un venir en Montaigu.
Mettons la loi de notre côté et laissons-les qu'ils commencent.
Je les regarderai de travers en passant devant eux, qu'ils le prennent comme ils le veulent.
Je vais mordre mon pouce pour les narguer. Ce sont des lâches s'ils le supportent.
Est-ce pour nous narguer que vous mordez votre pouce?
Je mords mon pouce.
Mordez-vous votre pouce pour nous narguer?
Aurons-nous la loi pour nous si je réponds oui?
Non, monsieur, je ne mords pas mon pouce pour vous narguer, monsieur, mais je mords mon pouce.
Vous cherchez une querelle, monsieur?
Une querelle, monsieur? Non, monsieur.
C'est que voyez-vous dans ce cas, je suis votre homme. Je sers un maître qui enfonce le vôtre.
Vous me faites rire.
Voici un parent de notre maître qui arrive.
Et il enfonce le vôtre.
Tu mens.
Dégainez si vous êtes des hommes.
Montre-nous ta grande estocade.
Allez.
Vous ne savez pas ce que vous faites.
Quoi, des mouliniers au milieu de tes brutes? Tourne la tête, Ben Bolio. Et regarde la mort en face.
Je cherche à rétablir la paix, Thibald. Remettez votre épée au fourreau et aidez-moi à séparer ces hommes.
Je dégaine et tu parles de paix, c'est un mot qui me dégoûte à l'égal de l'enfer, de tous les Montaigu de toi. Et on garde cela.
Sujets rebelles, des organisateurs de la paix, jetez vos armes par terre et écoutez l'arrêt de votre prince. C'est par toi, vieux Capulet, ainsi que par toi, Montaigu, que ces disputes frivoles ont trois fois troublé le repos de cette ville. Trois fois, il a fallu que les bourgeois de Vérone s'en mêlent. Jamais il vous arrive encore de jeter le désordre dans nos rues. Vous paierez de votre existence les atteintes portées à la paix publique. Pour cette fois que tous se retirent, vous, Capulet, suivez-moi. Vous, Montaigu, venez me trouver cet après-midi à l'hôtel de ville où siège notre tribunal. Vous y apprendrez notre décision au sujet de ce qui vient d'avoir lieu. Encore une fois, que chacun se retire sous peine de mort.
L'épisode, en fait, intervient plus tard, mais peu importe, cela exprime bien, n'est-ce pas, Patrick Boucheron, cette idée des factions servant l'autorité de la seigneurie, son installation, son affirmation.
Oui, tout à fait. On entend très bien ici ce qu'est une société à honneur et comment, évidemment, l'honneur des femmes, précisément, est une ressource disputée par différentes factions. Ce qu'on entend aussi très bien, me semble-t-il, c'est comment un pouvoir personnel, autoritaire, là en l'occurrence on l'appelle le prince, mais au XIVe siècle c'était plutôt un seigneur, peut pacifier cette société qui est structurellement conflictuelle parce qu'elle est politique. Et ce que la fresque du bon gouvernement, donc de Lorenzetti, tente d'opposer à cette pacification seigneurial, c'est justement une forme de pacification par la régulation de la parole et qui ne serait pas autoritaire. Donc, on n'aurait pas à choisir entre la paix et la guerre, mais entre la paix du prince et la paix que nous appellerons démocratique.
Oui, parce que très souvent, la seigneurie s'est fondée, a fondé son autorité, son accession au pouvoir sur l'idée qu'elle apportait le calme.
Bah, bien
qu'elle
sûr.
Apportait le calme civique par rapport aux factions.
Bah, bien sûr.
Toute la force, par conséquent, de la démocratie, telle qu'elle s'esquisse dans ces années des cités italiennes, toute cette force se fonde sur l'idée essentielle qu'on peut à la fois concilier le gouvernement du peuple et la paix.
Mais dans une organisation de la dispute qui est fondamentale pour fonder la République.
Disputatio, ce qui veut dire en fait le débat.
Le débat.
Qui ne veut pas dire l'affrontement.
Non, ça ne veut pas dire l'affrontement, ça veut dire l'organisation du dissensus politique, on dirait. C'est-à-dire que, évidemment, il y a des intérêts qui sont divergents. Bien sûr qu'il faut disputer, qu'il faut concilier une position, que cette disposition, elle est essentiellement fondée concrètement sur des situations de parole. Les citoyens s'assemblent, ils discutent, ils votent. Et tout cela fait un système qui est tendu, compliqué, conflictuel, mais qui, en tout cas, c'est l'engagement des républicains comme Lorenzetti, vaut toujours mieux que la pacification seigneuriale.
Alors, je voudrais que vous nous rappeliez comment on en est arrivé là, à partir de la victoire des cités italiennes contre l'effort de Frédéric Barberousse,
L'empereur.
Du Nord, de s'en saisir et d'imposer son autorité. Et là, il y a une date fondamentale, qui est la bataille de Legnano.
Oui, le 29 mai 1176, ce qu'on appelle la Ligue Lombarde. Alors évidemment, l'expression a été reprise par un parti xénophobe et régionaliste au début des années 1990, mais la Ligue Lombarde, ça ne voulait rien dire d'autre à ce moment-là que la coalition des cités communal qui s'était organisé contre l'empereur Frédéric Barberousse qui voulait retrouver ses droits en Italie. Pourquoi ? Eh bien parce que ce que l'on appelle l'Empire, c'est trois royaumes, le royaume de Bourgogne, le royaume d'Allemagne et le royaume d'Italie. On ne le voit pas beaucoup, l'empereur, en Italie, mais justement, dès les années 1150, eh bien Frédéric Barberousse veut y retourner.
Donc il n'y a pas de place à ce moment-là pour les communes. Il faut que les communes s'associent pour rejeter Barberousse vers le nord. Et c'est cette bataille essentielle qui d'ailleurs va s'inscrire ensuite dans la mémoire et dans la mythologie de l'Italie, notamment ressurgir au XIXe siècle, quand on va vers l'unité italienne. Et c'est le moment d'ailleurs où Verdi, à partir de cet événement fondateur, offre un de ses opéras. Ce n'est peut-être pas le plus connu, mais il a eu beaucoup de succès à l'époque. On le joue moins aujourd'hui. C'est la bataille de Legnano, qui remonte à 1849. Voilà l'extrait du début de l'acte 1, avec comme chef d'orchestre Lamberto Gardelli. C'est un enregistrement de 1977. Si vous voulez bien, Patrick Boucheron, vous nous direz ce que le chœur nous dit après l'avoir entendu. Patrick Boucheron, que nous dit Verdi par l'intermédiaire de ce chœur qui est situé au moment de la bataille de Legnano, donc 1176 ?
C'est le chœur de l'ouverture, l'acte premier. Vive l'Italie ! Un pacte sacré rassemble tous ses fils. Il les a enfin tous réunis pour en faire un seul peuple de héros. Déploie tes drapeaux sur le champ de bataille, ô invincible Ligue Lombarde, pétrifie de froid le féroce Barberousse. D'ailleurs, ces drapeaux sur les champs de bataille, c'était ceux justement de la ville de Milan qui, à ce moment-là, était la championne de la cause communale et qu'elle mettait sur un carroccio, c'est-à-dire un char de bataille qui, justement, rassemblait tous ces symboles orgueilleux de l'autonomie communale.
On comprend pourquoi peu de temps avant, un évêque allemand, Otton de Freising, qui passait en Italie et est émerveillé par ce pays, avec des villes qui surpassent, dit-il, en richesse et en puissance les autres villes du monde, tempère son admiration par une très vive indignation. Il écrit « On aurait du mal à trouver un noble ou un grand assez ambitieux pour ne pas se conformer aux ordres de sa cité. » Et puis il y a l'autre étonnement de l'évêque allemand, c'est-à-dire qu'une bonne partie de la noblesse féodale accepte de maintenir sa résidence en ville, alors que la ruralisation des élites est évidemment une des caractéristiques majeures de la société médiévale. Les habitants de ces cités, dit Otton, et c'est un scandale, aiment si fort la liberté qu'ils refusent tout excès de pouvoir et préfèrent pour les diriger des consuls à des chefs. C'est cela qu'il faut que vous nous expliquiez.
Otton de Freising, c'est l'oncle de l'empereur. Et évidemment, il est scandalisé par cette commune qui s'est installée depuis déjà longtemps, depuis déjà au moins 3 générations, puisque les premiers consuls dont il parle, eh bien, ils apparaissent dans la documentation à l'extrême fin du XIe siècle, dans les années 1090.
Qui sont ces consuls ? C'est une expression romaine.
Oui, c'est une expression romaine, mais qui à ce moment-là ne veut rien dire d'autre que ceux qui délibèrent, consulere, c'est-à-dire ceux qui ont pris le pouvoir parce qu'il était à prendre, parce qu'il y avait un vide juridique et parce que l'empereur n'était pas là, et qui organise ce premier âge des communes qu'on appelle l'âge consulaire et qui est en fait caractérisé par cela même qu'il exerce, c'est-à-dire des aristocrates. C'est-à-dire cette aristocratie consulaire, ce n'est pas celle que les historiens romantiques rêvaient, ne pouvaient imaginer évidemment la liberté que naît à la suite de gens nouveaux, c'est-à-dire d'une bourgeoisie déjà, pas du tout. C'est pas une bourgeoisie, c'est l'aristocratie féodale. C'est celle qui tient à la fois la terre et aussi dans l'entourage de l'évêque les honneurs et les fonctions dans la ville et qui simplement s'organise parce que déjà les cités à ce moment-là sont des organismes économiquement très 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 riches, très puissants et qu'il faut évidemment les gouverner.
Alors par quelles étapes en arrive-t-on, Patrick Boucheron, vers cet équilibre fragile, précaire, que peint la fresque dont nous parlons, la fresque du bon gouvernement, cet équilibre que l'on peut appeler républicain ?
Eh bien parce que, évidemment, cette commune aristocratique, cette commune des premiers temps consulaires, elle est sans cesse sous pression. C'est une pression qui est exercée par tous ceux qui ne font pas partie de cette aristocratie, qu'on appelle dans l'Italie communale la militia, c'est-à-dire ceux qui combattent à cheval. Et par opposition à la militia, il y a le popolo, c'est-à-dire ceux qui combattent à pied pour, évidemment, les milices communales et qui, d'une certaine manière, s'opposent donc à l'aristocratie. Alors, évidemment, ce popolo, il peut être grasso, hein, ça peut être la bourgeoisie d'affaires. Et c'est justement ce popolo que défend le gouvernement des 9 anciennes depuis 1287.
Précisez-nous cela, il y a le système du podestat dans un premier temps.
Oui, parce que ce système, on l'a dit, vous l'avez dit, il est d'emblée conflictuel. Et donc, sans cesse, il faut organiser la conciliation, l'arbitrage.
Le podestat, c'est un personnage qu'on va chercher ailleurs, ce qui est assez curieux.
Oui, c'est très curieux.
On a guère l'équivalent aujourd'hui dans nos républiques ou démocraties.
C'est un magistrat itinérant qui est choisi dans une autre ville pour, pendant un temps très bref, 6 mois, 1 an, arbitrer, organiser la conciliation et concrètement prendre la tête des tribunaux. Évidemment, c'est très intéressant parce que ces podestats, ils apparaissent à la fin du XIIe siècle, dans les années 1180. Ces podestats, ce sont des professionnels de la politique. Et la politique, qu'est-ce que c'est ? C'est l'art de parler et de bien parler.
Donc ce sont un peu les juges-arbitres que l'on retrouve aujourd'hui dans les grandes affaires judiciaires.
Oui, on va les chercher évidemment parce qu'ils ont de l'autorité. Cette autorité, c'est le droit qui leur confère.
Ils sont extérieurs à la ville, d'autre part.
Ils sont extérieurs à la ville.
Et à ces conflits, à ces bisbilles anciennes.
Donc normalement, c'est un gage de neutralité.
Ils ne choisiront ni les Montaigu ni les Capulet.
Mais en revanche, ils choisiront toujours, évidemment, leur groupe social parce que ces juges sont choisis toujours parmi l'aristocratie. Donc ce deuxième âge de commune, qui est l'âge podestataire, très important parce qu'il permet la circulation des modèles politiques dans ce monde qui est évidemment fractionné. Sur le plan formel, les communes italiennes ont un niveau de participation politique qu'on ne connaîtra pas avant bien longtemps. C'est-à-dire qu'on estime par exemple qu'à Florence, dans les années 1330, au moment où Ambrogio Lorenzetti peint, à Florence donc, environ un tiers des jeunes hommes participent activement à la vie politique. Pas seulement parce qu'ils votent, mais parce qu'ils ont une responsabilité. Ça, évidemment, c'est un niveau de participation politique qui est impressionnant.
Ensuite, il y a un élargissement de la base avec le surgissement de ce personnage qui vient contester la puissance du podestat, qui est le capitaine du peuple.
Mais oui, parce que c'est toujours cette même histoire d'une pression populaire sur les institutions. D'abord consulaire, ensuite podestataire. Et c'est aussi l'idée que la commune, c'est un régime de parti. Et donc, les institutions ne se succèdent pas, elles se superposent. Et donc, le popolo a d'abord sa propre institution. C'est-à-dire que c'est un État dans l'État. Et le chef de cet État, c'est le capitaine du peuple qui vient faire pendant au podestat. Et là, on est dans les années 1250. Donc, on s'approche justement de la crise finale. C'est, pour reprendre une expression d'Elisabeth Crouzet-Pavant, le passage d'une société du conflit à une société de l'exclusion. C'est-à-dire une société où on va définitivement mettre hors jeu les adversaires politiques. Alors il y a des lois pour ça, une sorte de loi des suspects qu'on appelle les législations anti-magna. Dès la seconde moitié du XIIIe siècle, à Florence, à Bologne, on va exclure les plus riches, ceux dont la puissance sociale apparaît comme une violence pour la communauté politique, et on les exclut du jeu.
Ce qui veut dire que on va plus loin qu'on n'est jamais allé, par exemple, dans nos démocraties. On interdit aux riches de participer à la vie publique. Serge Dassault n'aurait pas eu sa chance dans les villes que vous évoquez.
À Serge Dassault, aucune chance. Et d'ailleurs, ce n'est pas une question, justement, et c'est pour ça que l'exemple est bien choisi, ce n'est pas une question de niveau de richesse, c'est une question d'arrogance sociale. Les magnats sont ceux qui ont une fama de grandeur, disent les populaires, c'est-à-dire qui écrasent les citoyens de leur morgue et qui, d'une certaine manière, font de cette morgue une violence.
Et c'est là qu'on arrive au temps des neufs, c'est-à-dire les neufs qui sont choisis pour gouverner la cité, mais qui sont voués à changer souvent. L'idée est qu'il ne faut pas laisser les gens en place. Convenium est, mutare rectores. C'est un latin d'église qu'on peut comprendre assez aisément. Il convient de changer les gouvernants à termes fréquents.
Oui, sinon l'oligarchie se fige. C'est comme une mauvaise mayonnaise. Il faut que ça tourne. Il faut tourner tout ça. Il faut que ça bouge, que ça change. Et c'est pour ça que, fondamentalement, il n'y a pas d'homme politique. Il ne peut pas y avoir d'homme politique. L'homme est un animal politique, dit Aristote. Donc fondamentalement, ce qui fait la République, c'est la rotation des charges. Si une oligarchie se fige, alors évidemment, c'est le système qui se bloque.
C'est intéressant vu d'aujourd'hui, non ? Du point de vue des efforts pour lutter contre le cumul des mandats ou éventuellement pour limiter le nombre de charges politiques successives.
Il me semble, et puis il faut dire aussi qu'ils allaient très très loin dans cette direction, puisque les magistrats, par exemple les neufs, lorsqu'ils étaient pour 3 à 6 mois en charge de la chose publique, étaient dans leur palais comme enfermés dans une résidence dont ils ne pouvaient pas sortir, précisément parce qu'ils étaient à ce moment-là de leur vie proprement prisonniers de l'idée qui les dépassait et qui était celle justement de la République. Évidemment, ce système, il y a deux manières de le voir. Il y a cette manière optimiste et puis il y a aussi quelque chose de plus nostalgique qui, me semble-t-il, court dans le livre. C'est qu'on peut difficilement trouver des législations qui vont plus loin pour contrecarrer le figement oligarchique et pourtant ça ne marche pas.
Mais ça ne marche pas bien.
Parce qu'à la fin, ce sont quand même toujours les plus puissants qui vont faire gripper le système. Avec, d'ailleurs, à Sienne, en 1338, quelque chose qui, du point de vue de la concordance des temps, est quand même un petit peu troublant, c'est que ce qui va enclencher la crise finale, c'est une crise de la dette, une crise du financement. Les banques sont en faillite. Et l'État décide de sauver les banques en endettant l'État.
Ça vous paraît très actuel, ça, alors ?
Ça l'est tristement, et j'étais presque gêné au moment où l'actualité venait dépassé ce que je voulais simplement raconter d'une histoire obscure, ancienne, au XIVe siècle.
Est-ce que vous parleriez plutôt de démocratie ou de république à propos de cette sienne du XIIIe siècle, du XIVe siècle ?
République est certainement le terme le plus adéquat à l'idée qu'ils se faisaient de leur propre régime. Ensuite, il appartient à l'historien de mesurer, je dirais, le fonctionnement démocratique ou non de ce régime. La démocratie n'est pas un horizon pour ces médiévaux. Ils ne veulent pas de la démocratie. Ils se souviennent que c'est un régime qui est quand même très mal vu par la théorie aristotélicienne. Le legs le plus précieux pour nous, c'est cette idée simple, au fond, que l'éloquence fonde la République, qu'il y a une coïncidence entre une cité où la parole est bien régulée, où elle circule, où elle n'est pas confisquée par la harangue des démagogues, où elle ne tombe pas comme la foudre sur les citoyens, mais où elle est partagée, où il y a un langage commun, et c'est cela que donne à voir évidemment Lorenzetti, quel est le langage commun de la commune. Dans la fresque du bon et du mauvais gouvernement, le mauvais gouvernement, c'est celui qui dérègle les usages de la parole, et le bon gouvernement, c'est celui qui organise un espace public comme un espace de libre circulation des discours. Et donc, dans un régime qui est républicain, c'est-à-dire où le pouvoir appartient à celui qui va convaincre les citoyens du bien fondé de sa république, il faut persuader.
Mais c'est déjà Socrate contre les sophistes ou Cicéron contre les démagogues, contre Catilina.
Exactement, puisque nous avons par exemple toute une littérature qu'on appelle l'ars dictaminis, l'art de parler, de bien parler, l'art de parler et de se taire, dit quelqu'un comme Buoncompagno da Signa, qui est un de ces rhéteurs de la civilisation communale. Toute une littérature donc qui apprend à ceux qui exercent le pouvoir à, je vais dire quelque chose qui peut résonner à nos oreilles d'aujourd'hui, à ne pas prendre un mot pour un autre. Au fond, le seul art politique, c'est celui-là. C'est de ne pas tromper avec les mots. C'est de désigner avec exactitude et justesse les choses du politique.
Pédagogie au lieu de démagogie.
Et une pédagogie qui est évidemment un art de la conviction, mais avec des règles. Et l'obsession, en fait, de ces régimes, c'est justement le dérèglement de la parole publique et le fait qu'ils le savent bien, que c'est ce qui se passe dans les assemblées. Et les assemblées de citoyens, c'est très concret. On se réunit et on délibère. Et il y a toujours la place, effectivement, pour qu'un démagogue prenne le pouvoir en posant une parole malicieuse, disent-ils. La malitia, c'est le péché de la langue.
Oui, ça, c'est une actualité de toujours, dans tous les systèmes où les assemblées ont du pouvoir.
Bien sûr, et c'est pourquoi votre comparaison avec la question des orateurs antiques et que la philosophie fondamentalement elle s'oppose aux sophistes, elle est très pertinente et je dirais qu'à ce moment-là, ils en ont pleinement conscience.
Rector, rhétor, le dirigeant doit être un rhéteur.
Oui.
Et on va directement au régime parlementaire de la Troisième et de la Quatrième République.
Gouverner, c'est parler, et c'est bien parler. Et c'est savoir bien parler à tout le monde. Et d'une certaine manière, cette idée simple qui fonde les valeurs civiques de la commune, le talent, le génie de Lorenzetti, c'est de lui avoir trouvé un équivalent visuel, de le donner à voir, de le donner à comprendre par les moyens propres de la peinture.
Concrètement, quoi ?
Par exemple, c'est une des premières peintures politiques qui est envahie par les mots, où les mots sont là pour désigner les figures. Celle-là est la paix, celle-là est la magnanimité, celle-là est la tempérance, mais aussi pour forcer la lecture qu'on peut avoir de ces allégories.
Comme les phylactères dans les bandes dessinées.
Comme les phylactères dans les bandes dessinées, et justement, ça file, c'est-à-dire que c'est comme une chanson politique, une chanson engagée, qui s'adresse directement à celui qui regarde, par exemple qui dit « Tournez le regard, vous qui exercez le pouvoir, vers celle qui est peinte ici ». C'est la paix, et si vous gouvernez avec ses bons préceptes, elle fera ceci, elle fera cela. Donc elle s'adresse directement à ceux qui ont le pouvoir, temporairement, et elle a une puissance de rectrice, rector, rétor, rectrice sur leur action.
Écoutez cette curieuse conférence de Gabriel Faure dans l'Heure de culture française, le 16 mai 1952. Gabriel Faure est un spécialiste de l'histoire de l'art, qui a d'ailleurs donné son nom au lycée de Tournon, je le signale en passant. Gabriel Faure.
Sur l'une des portes de Sienne, on lit la célèbre inscription « Cor magis tibi sena pendit », c'est-à-dire « Sienne t'ouvre son cœur plus largement que sa porte ». Cette délicieuse phrase d'accueil peint bien une ville, dont le généreux caractère fut toujours à l'opposé de l'égoïsme florentin. On comprend que les deux cités n'aient jamais pu s'entendre, tous les séparer. L'une était guelfe, l'autre gibeline. Quand Sienne, d'abord uniquement agricole, se mit à être commerçante et financière, elle devint une rivale pour Florence, qui lui voua dès lors une haine mortelle. « Folle Sienne, dit Gillet. Peuple de fous, dit Théodore de Wiseva. Cerveaux bizarres, grands enfants, déclarait déjà Montluc. Étrange cerveau, répétait le cardinal du Bellay. Mais on sent, dans le jugement de tous ces Français, une nuance de gentillesse que n'y mettait pas, par exemple, le duc de Toscane qui gouvernait la ville. Au magistrat de Sienne, qui était venu lui demander la construction d'un asile d'aliénés, il répondit « Un asile ? À quoi bon ? Fermez les portes de la ville, la maison des fous sera toute faite. » Toujours les Siennois nous plurent, parce que sur bien des points, nous les sentons proches de nous. Leur amabilité, leur bonhomie souriante rappellent notre caractère. Prompt à l'enthousiasme comme au découragement. Chimérique, idéaliste, dupe des mots, bâtisseur de grands projets vite abandonnés, d'un patriotisme facilement surexcité et très souvent négligent, autant de traits qui nous sont communs. Et je n'oublie pas leur goût violent pour la politique, ainsi que la passion de la liberté, cette libertas dont le nom magique figure sur le blason de Sienne comme au fronton de nos édifices nationaux.
Alors, Patrick Bouchon, complètement farfelu cette comparaison. Je songeais que c'était à peu près le moment où André Siegfried faisait paraître un livre qui s'appelait « L'âme des peuples ». C'était très à la mode en 1950-52, au moment où cette causerie est prononcée à la radio d'État. Aller rechercher ce qui fait l'identité propre, un ensemble de traits particuliers. Et ce rapprochement entre Sienne et la France surprend, amuse, désoriente et peut paraître assez débridé.
On se risque dans le bizarre, comme il est dit dans les tontons flingueurs. Effectivement, nous et eux, c'est la grille d'analyse à laquelle se prête fort bien l'Italie communale, puisqu'on voit bien que chaque cité va, d'une certaine manière, se déterminer par rapport à sa voisine.
Avec une idiosyncrasie propre.
Florence, Sienne. Alors, ce qui est bizarre, effectivement, dans ce que dit Gabriel Faure, c'est que Sienne n'est plus gibeline, justement, à ce moment-là.
Guelph et Gibelin, c'était quoi ?
Guelph, ce sont les alliés du pape, et Gibelin, ce sont les alliés de l'empereur. Et donc, dire que les Siennois sont français parce qu'ils sont gibelins, donc allemands, c'est un peu bizarre. Mais en même temps, il y a quelque chose d'assez intéressant dans cette idée, c'est que, justement, les appartenances politiques, elle se détermine par haine du voisin. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, Sienne va tenter d'être gibeline avant le gouvernement des Neufs, précisément pour résister à la puissance de Florence, qui, elle, est guelfe.
Quand on regarde cette fresque, il y a un personnage effrayant que l'on voit reproduit dans votre livre, évidemment, et qu'a peint Lorenzetti, un personnage qui a des cornes, qui a des dents qui sortent et qui est une sorte d'incarnation de la méchanceté, de tout ce que peut représenter l'oppression et d'ailleurs aussi la guerre.
Oui, au fond, dans la mauvaise part, dans la part funeste de la fresque de Lorenzetti, ce qui est, je dirais, forcé, puisque en réalité les choses étaient beaucoup plus nuancées et ambiguës que cela, c'est l'idée que la seigneurie c'est l'empire et que l'empire c'est la guerre. Voilà. Et donc on représente une figure diabolique de la tyrannie, D'ailleurs, on sort le gros mot, tyrannie, hein, c'est le fascisme d'aujourd'hui, hein, tyrannie, le mot est lâché, et donc dès lors, il doit faire peur, et conjurer la peur, ça ne veut pas dire rassurer tout le monde. Ça peut vouloir dire aussi désigner la peur, rappeler les méfaits des régimes passés, rappeler effectivement la bête immonde. Et la bête immonde, à ce moment-là, c'est ce masque effrayant, qui est un masque comme Sénèque en mettait évidemment dans son théâtre, qui, d'une certaine manière, nous cache l'obscure attirance qu'avait en réalité le popolo pour la tyrannie, mais qui est évidemment une leçon très forte, qui un rappel à l'histoire. Et pour le dire, il faut le dire clairement, et la manière de le dire clairement pour Lorenzetti, c'est de le peindre comme il le peint, et c'est de le souligner en italien. Car il faut dire que, évidemment, la peinture est emplie de belles lettres lisibles, exactement au même moment où Sienne a décidé, c'était en 1309-1310, de vulgariser, c'est-à-dire de traduire en vulgaire, ses statues. Et ça, c'est un point extraordinaire aussi, que l'on peut, d'une certaine manière, retenir pour définir ce legs précieux de la République. C'est que la République est le régime où la loi est disponible, elle est accessible, elle est lisible. Et évidemment, la langue noble qu'il s'agit de contrecarrer dans cette Italie du XIVe siècle, c'est le latin. Et c'est pourquoi le préambule de ce statut vulgarisé de 1309 dit clairement les choses. Nous l'avons mis en toscan pour que chacun puisse aller le lire. Et d'ailleurs, on peut aller le lire physiquement. Il est au rez-de-chaussée du palais communal. Comme on peut aller ensuite au premier étage voir la fresque du bon gouvernement. Il y a une accessibilité, une disponibilité de la loi qui fonde la République.
Comment est-ce qu'on vote dans cette esquisse de démocratie? Il y a à la fois, si j'ai bien compris, le vote ouvert, c'est-à-dire ad levandum et sedendum, où on se lève, où on reste assis, et puis on invente aussi le vote secret, ce qui nous intéresse.
Oui, ça nous intéresse beaucoup, et ce qui est... Alors, les procédures de vote... C'est toujours très compliqué, ça met en jeu différentes procédures, directes, indirectes. À la fin, évidemment, on se souvient que votum, ça veut dire vœu, ça ne veut pas dire nécessairement suffrage. Mais il est intéressant de voir qu'à chaque fois qu'elle peut s'exprimer, la faction populaire défendra toujours la part du tirage au sort. Qui lui, mais ça c'est vieux comme la démocratie grecque, qui au total... lui semble toujours le moins injuste parce qu'elle sait les effets réels de toutes les procédures, y compris les plus impeccables sur le plan formel.
Et elle sait que le scrutin anonyme a des avantages puisqu'on parle plus librement, mais que c'est, comme disait quelqu'un, ce peut être la lettre anonyme de la démocratie, c'est-à-dire qu'on peut voir s'y défouler beaucoup de passions qui ne sont pas des passions nobles au service de la collectivité.
Et la dénonciation, c'est aussi une pratique démocratique de ces régimes. En particulier, on va dénoncer les magnats parce que ce sont ceux qui sont suspects effectivement d'arrogance. Et cette dénonciation a des effets très lourds puisqu'ils vont être bannis de la ville.
L'exclusion au lieu des conflits, comme vous le disiez.
L'exclusion, c'est-à-dire au sens propre, le fait que les adversaires, et Dante en sera une victime, les adversaires doivent quitter la ville.
On revient à l'ostracisation dans la Grèce antique, c'est-à-dire qu'on écrivait sur des coquilles d'huîtres le nom des gens qu'on voulait voir exclus de la ville et on le faisait de façon anonyme.
Oui, et cette inscription, c'est très intéressant puisque un historien comme Giuliano Milani a pu écrire un livre qui s'appelle « Le gouvernement des listes » où il montre que justement cette inscription sur des listes des noms que l'on veut désigner comme les adversaires de la République.
Proscrire.
Eh bien, c'est une sorte d'antinomination. Hein, c'est-à-dire, c'est nommer les ennemis. C'est très précisément, d'ailleurs, ce que Lorenzetti ne fait pas. C'est-à-dire que c'est les adversaires de la commune, dans la mauvaise part de sa fresque, ne désignent pas des personnes réelles. Il les allégorise. Ce qui est une manière, d'ailleurs, de pérenniser la portée de sa fresque. Parce que s'il ne faisait que dénoncer les ennemis du moment, on ne la verrait plus, cette fresque. Elle aurait été, comme toutes les peintures infamantes, périmée et donc détruite. Elle est aujourd'hui visible parce qu'elle a cette puissance d'actualisation qui fait que la force de Lorenzetti, c'est d'avoir dépassé ce gouvernement des listes pour désigner des principes généraux.
Avec cet effet très, très patent, quand on regarde cette fresque, dans votre livre ou autrement, que dans les deux campagnes opposées, Contado, il y a une description du bonheur de vivre et de l'autre, toutes les horreurs des armées qui viennent ravager les campagnes.
Oui, et on retrouve d'ailleurs ici ce thème de la parole. Parce que qu'est-ce que le bonheur de vivre dans une ville pacifiée et affairée? C'est ce que Jean-Christophe Bailly appelle la phrase urbaine. Mais la phrase urbaine, ce n'est pas le discours imposant que la ville s'adresse à elle-même. Non, c'est le fait que la ville accueille plein de conversations, que chacun est dans sa vie comme il l'entend, que chacun, d'une certaine manière, a sa propre parole, que chaque parole en vaut une autre. On voit ici des petits paysans qui viennent amener leurs cochons au marché et ils discutent parce qu'ils s'approchent de la porte de la ville, parce que la ville, c'est ce qui accueille toutes les paroles. Et d'une certaine manière, c'est cela, me semble-t-il, qui est le message politique le plus poignant de la fresque de Lorenzetti. C'est cette idée que, d'une certaine manière, le pouvoir juste est déjà simplement cela, celui qui laisse en paix les êtres parlants, celui qui ne s'attaque pas au corps récalcitrant, celui qui nous laisse mener tranquillement nos affaires.
Alors que dans le Contado de Movespa, on voit des viols, on voit l'obligation faite au corps d'obéir ou de souffrir.
Et puis on voit des incendies, par exemple. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans ce livre, Conjurer la peur, je commence par regarder cette partie qu'on ne regarde finalement qu'assez peu, la partie des effets du mauvais gouvernement, parce que je dirais que c'est la partie réaliste de la fresque. L'essentiel de la vie des communes au XIVe siècle, elle était d'abord faite de cela, c'est-à-dire des guerres, c'est-à-dire et d'une guerre qui était une guerre de dévastation du Contado, ce qu'on appelle le guasto. Et c'est cela que montre Lorenzetti.
Cette fresque donc remonte à 1339, et on peut dire avec le recul que ce régime, les Neufs, n'avaient pas tort d'être inquiets,
non,
puisqu'il a duré peu de temps. Comment est-ce que cette aventure s'est terminée?
Alors, elle s'est terminée deux fois. D'abord, le véritable danger, personne ne l'avait vu, c'était la peste, 10 ans plus tard, 1348. Et cela, les frères Lorenzetti, Pietro et Ambrogio en meurent, mais avec eux, plus d'un tiers de la population urbaine de Sienne. C'est vraiment une catastrophe. Bon. Et puis, la catastrophe politique, elle intervient en 1355. Le gouvernement des Neufs est renversé, mais là encore, pas par ce qu'elle craignait, pas par les nobles, pas par les impériaux, mais par le peuple. Et c'est cela, évidemment, qui est déstabilisant, c'est qu'on peut dire que si la fresque de Lorenzetti devait persuader de quelque chose, alors elle a échoué. Puisque ce gouvernement des Neufs, qui prétendait défendre les petits, les humbles, est balayé par ceux-là même qu'elle prétendait défendre.
Fin de l'histoire. Alors ce qui est fin provisoire.
Pas tout à fait, puisque nous la voyons encore.
Les romantiques, les historiens et aussi les poètes se sont beaucoup intéressés à la période des républiques italiennes. Il y a un grand livre de l'économiste, philosophe Simon de Sismondi, qui s'appelle « Histoire des républiques italiennes du Moyen-Âge », entre 1807 et 1818, ce sont 17, 18, 19 volumes.
Oui.
Grand succès de librairie, d'ailleurs.
Grand succès de librairie, dont la bataille de Legnano, dont on a parlé au début de cette émission, est un des morceaux de bravoure, et qui, justement, tente exactement ce que Augustin Thierry va faire avec les communes françaises, c'est-à-dire de retrouver un autre berceau démocratique pour les libertés publiques. Voilà. Et les communes italiennes sont évidemment le principe idéal de l'histoire péninsulaire.
On est en France dans les moments des monarchies censitaires de Charles X et ensuite de Louis-Philippe.
Oui, et c'est à ce moment-là que les romantiques, mais cette fois-ci les dramaturges, Hugo dans Angelo de Padoue, Musset évidemment, vont s'emparer de ce motif qui est le motif de la commune, qui est donc opposée à la seigneurie, pour poser une question essentielle, pour Musset notamment, qui est celle du tyrannicide.
Eh bien, effectivement, vous attendiez, j'imagine, Patrick Boucheron, à ce que je vous fasse entendre un extrait de Lorenzo Accio d'Alfred de Musset. On voit exactement s'exprimer ce que vous dites dans la bouche d'un orfèvre.
qui protestent contre le poids de la seigneurie. Ce sont les Médicis, puisqu'il s'agit de Florence. C'est ultérieur, mais peu importe, c'est bien la même idée. Gérard Philippe, que nous n'entendrons pas ici, puisqu'il jouait Lorenz Accio, a mis en scène cette pièce. Festival d'Avignon, 27 août 1953, l'orfèvre est interprété par Jean-Paul Moulineau.
Que Dieu conserve son Altesse, la cour est une belle chose.
La cour ? Le peuple la porte sur les épaules, voyez-vous. Florence était encore, il n'y a pas longtemps de cela, une bonne maison bien bâtie. Mais il y a de par le monde deux architectes mal avisés qui ont gâté l'affaire, je vous le dis en confidence. C'est le pape et l'empereur Charles Quint. L'empereur a commencé par entrer par une assez bonne brèche dans la susdite maison. Après quoi, les Allemands se sont installés dans ce maudit trou comme des rats dans un fromage. Et il est bon de savoir que tout en jouant au dé et en buvant leur vin aigre lait, ils ont l'œil sur nous autres. Les Médicis gouvernent au moyen de leur garnison. Ils nous dévorent comme une excroissance vénéneuse dévore un estomac malade. C'est en vertu des hallebardes qui se promènent sur la plateforme qu'un bâtard, qu'une moitié de Médicis, un butor que le ciel avait fait pour être garçon boucher ou valet de charrue, couche dans le lit de nos filles, boit nos bouteilles, casse nos vitres, et encore le paye-t-on pour cela.
Peste, comme vous y allez, vous avez l'air de savoir tout cela par cœur.
Ferait pas bon dire cela dans toutes les oreilles, voisin Mandela.
Et quand on me bannirait comme tant d'autres, on vit à Rome aussi bien qu'ici. Que le diable emporte la noce, ceux qui dansent et ceux qui la font.
On se rappelle, Patrick Boucheron, que Lorenzo finalement tue comme il l'a prévu le seigneur, le Médicis, mais que ça ne change rien, un autre seigneur le remplace. C'est donc la faillite des communes et de ces républiques plus ou moins démocratiques que nous avons évoquées depuis une heure.
Oui, mais là nous sommes en 1537, deux siècles après la fresque du bon gouvernement. Et qu'est-ce qui s'est passé entre, eh bien, d'abord, évidemment, les seigneuries ont pratiquement triomphé partout, y compris d'ailleurs à Florence, et Florence a englobé Sienne. Sienne, à ce moment-là, dans les années 1530, fait partie du grand-duché de Toscane, et ce grand-duché de Toscane est lui-même un des éléments de cette Europe des princes, donc le tournant princier est à ce moment-là accompli.
Et le moment républicain est désormais de l'ordre de la mémoire, et peut-être aussi offre des modèles et des occasions de nostalgie ensuite.
Ben, c'est le cas justement de Lorenzo Accio. C'est-à-dire qu'on voit très bien que ce qui l'anime, c'est évidemment le souvenir romain. Il veut refaire le geste de Brutus, bien sûr. C'est celui du tyrannicide. Il veut tuer le César.
Tuant César.
Mais en même temps, cette idéologie républicaine, elle est comme un fleuve souterrain qui a, en tout cas, c'est une des thèses de Quentin Skinner que je discute. C'est une autre histoire politique, au fond, de l'Europe depuis le XIIIe siècle que celle qui est mue par ce filon républicain qui court sous tous les régimes.
Eh bien, saluons ce filon républicain et peut-être peut-on, dans ce passé, trouver encore des références pour nos inquiétudes d'aujourd'hui et pour nos résolutions. C'est en tout cas, Patrick Boucheron, ce que je souhaite que nous conservions de cette émission. Votre livre, sur lequel nous avons fondé notre conversation, s'appelle « Conjurer la peur », je le rappelle, Sienne 1338, essai sur la force politique des images. Il vient de paraître aux éditions du Seuil. Elisabeth Crouzet-Pavant a publié un livre à quoi vous êtes référé souvent, qui s'appelle « Enfer et paradis, l'Italie de Dante et de Giotto », paru chez Albin Michel en 2001. Vous pourrez trouver une bibliographie plus complète, vous le savez, sur notre site avec les références des documents que nous avons utilisés. Et vous pourrez également écouter, réécouter et télécharger cette émission, ce qui permettra éventuellement d'en confronter les propos aux images même de la fresque de Lorenzetti. Je crois que c'est utile et que c'est même nécessaire. Je rappelle que l'émission que vous venez d'entendre a été proposée une première fois le 9 novembre 2013. La semaine prochaine, dernière de nos rediffusions de l'été, avec une émission intitulée « Filles et garçons à l'école » depuis Jules Ferry avec Rebecca Rogers.
C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Nathalie Lempereur, avec le concours aussi de Jeanne Guéroux, réalisée par Patrick Molinier, avec Jehan Richard Dufour à la prise de son et Arnaud Plançon pour les archivinats. Et dans quelques instants, nous allons retrouver Aurélie Luneau.